Voilà, c'était Léa Tzemel tout à l'heure, avocate israélienne qui a choisi depuis 1972 d'être aux côtés de ceux, comme elle dit, qui sont le plus dépourvus de droits. Et elle, en tant qu'avocate qui a choisi de défendre le respect des droits de la personne, eh bien, elle ne pouvait que se trouver aux côtés de ceux des plus démunis, sans les moindres droits. Et ça s'est fait tout naturellement, comme elle nous l'a dit. Vous avez entendu, quelquefois nous avons été interrompus par le téléphone, par des consignes à donner, etc. Mais cela m'a permis au moins de connaître un peu ce qui se passait autour de cette fameuse question de Jérusalem. Et avant de donner la parole à Samira, Samira est une femme qui était à côté de moi, qui attendait dans le bureau de Léa Tzemel. Et imaginez-vous 10 autres personnes qui sont là, des hommes, des femmes, tous des Palestiniens, qui en arrivant ont posé leur nom sur une liste et chacun respecte complètement cette liste d'attente. Eh bien, elle était assise à côté de moi et à un moment donné, elle m'a apostrophée, supposant que je parlais en anglais. Et finalement, je lui ai demandé pourquoi elle était venue là, quelle aide elle venait chercher auprès de Léa Tzemel. Mais avant de lui donner la parole, eh bien, j'aimerais vous donner des informations un petit peu plus complètes sur cette histoire de Jérusalem. Pourquoi ? Quelles sont ces mesures démocratiques qui font qu'en ce moment, les Israéliens sont en train de vider, de déporter, et je crois qu'on peut employer ce mot carrément, les Palestiniens qui aujourd'hui habitent dans Jérusalem-Est pour en faire petit à petit, par la force des choses et leur force, faire de Jérusalem une ville qui soit entièrement israélienne. D'abord, très concrètement, très personnellement, et vous le verrez autant que moi si un jour vous vous promenez dans le vieux Jérusalem par exemple, eh bien le vieux Jérusalem c'est vraiment censé être palestinien ou bien chrétien, musulman et juif. Il y a un quartier juif dans le vieux Jérusalem qui a été complètement refait, inodore, incolore, avec des grilles sur les fenêtres, enfin il fait guère bon et ceci sans parti pris du tout, là je vous le dis sincèrement, il ne fait pas très bon se balader dans ce quartier-là. En plus, sans arrêt, des soldats circulent dans ce quartier-là. Et puis il y a le quartier chrétien autour du Saint-Sépulcre, donc des lieux saints religieux chrétiens. Et puis, il y a le quartier musulman. Et dans ce quartier-là, de jour en jour, presque, on voit flotter sur le toit des maisons, qui sont très traditionnellement à toit plat ou avec une coupole sur ce toit plat, eh bien, on voit se planter des drapeaux israéliens pour symboliser le fait que cette maison est devenue propriété d'un Israélien dans le quartier musulman de Jérusalem-Est. Et comment ça se passe ? Eh bien, soit la maison était la propriété d'un Palestinien qui vit à l'extérieur de Jérusalem, par exemple aux États-Unis, et qui ne s'intéresse plus à la question, parce que là, s'il y a des Palestiniens qui ne s'intéressent plus à la question de la Palestine, et qui sont capables de vendre leur maison, par exemple, $1 million à un Israélien. C'est ce qui se racontait dans un journal que j'ai lu. Ou bien qui font des pressions tellement importantes sur les habitants qu'ils finissent par les obliger à vendre. Alors on voit tout à coup vraiment on occupe pied par pied, maison par maison l'espace et on fait flotter le drapeau israélien, parce qu'à cet endroit-là, c'est pas le drapeau palestinien qui flotte, même si dans beaucoup d'endroits, il flotte. Mais là, c'est vraiment la provocation du drapeau israélien. Et dans certaines maisons, plus officielles que d'autres, eh bien, ni plus ni moins, elles sont gardées en permanence par des soldats. C'est le cas, par exemple, de la maison de Sharon, ce général de l'armée israélienne, qui a une maison tout près de l'auberge de jeunesse dans laquelle nous habitions Isabelle, Nathalie et moi. Et tous les jours, nous devions passer devant ces soldats israéliens qui gardaient cette maison. Soldats israéliens, par ailleurs, tellement jeunes, on se dit, mais comment ils peuvent arriver à tirer sur d'autres gamins comme eux qui leur lancent des pierres et auxquels ils répondent par des coups de Kalachnikov ou de mitraillette américaine, puisque c'est plutôt la police, ce serait censé être plutôt les Palestiniens qui ont des Kalachnikov, mais la police palestinienne n'ayant pas le droit de tirer, eh bien elle arbore ses fusils, mais elle ne les emploie pas. Alors, de quoi s'agit-il en tant que ces mesures bureaucratiques ? Eh bien, Agnès Pavlovski a écrit un article dans le courrier du jeudi 17 avril qui précise très très clairement ce que je pourrais vous raconter au vu de ce que j'ai appris à Jérusalem. Alors, elle a rencontré, tout comme moi, Léa Tzemel, qui lui a dit « À Jérusalem, Israël mène une forme de nettoyage ethnique. Des milliers de Palestiniens pourraient bien ne plus avoir le droit d'y vivre. L'accumulation des dossiers sur mon bureau, dit-elle, signifie que quelque chose a changé. »
Alors, elle a donné ses explications et Agnès Pavlovski nous les retransmet. Insidieusement, sans fracas et bien sûr sans les projecteurs des médias, l'État juif est en train de manœuvrer pour réduire la présence palestinienne dans la cité. D'abord, la droite sortie des urnes, donc en mai 1996, applique à la lettre la législation existante à l'encontre des Palestiniens. Alors, de quoi s'agit-il ? En plus, elle a promulgué des nouvelles mesures restrictives. À présent, le gouvernement israélien reconnaît officiellement pratiquer une telle politique et même s'en vante. Le 29 janvier, par exemple, le ministre de l'Intérieur, Elie Souissa, a déclaré « Depuis que je suis à ce poste, 600 personnes ne sont plus autorisées à résider dans Jérusalem. » Il y a de quoi être fier. Alors, en vertu de quoi peut-on empêcher les Palestiniens, qui la plupart sont nés dans cette ville, d'y habiter ? Alors, ils ont un statut particulier en fait. Possesseurs d'une carte d'identité bleue, comme les Israéliens, comme je vous le disais tout à l'heure, qui donnent tous les droits, et non orange, comme les Palestiniens des territoires occupés en 1967, ils n'ont pas pour autant la citoyenneté israélienne. Ils sont résidents permanents de Jérusalem. Et c'est une dénomination qui habituellement se rapporte à un immigré admis à séjourner. Mais ces Palestiniens sont comme des étrangers tolérés dans la partie orientale de leur ville annexée en 1980. Et c'est pourquoi une constitution juridique peut permettre leur expulsion. En 1974, la loi d'entrée en Israël de 1952 a été amendée par trois dispositions qui ne concernent que les Arabes de la ville. Elle précise que demeurer à l'extérieur du pays plus de 7 ans, devenir un résident permanent ailleurs, demander une naturalisation, tout ça remet en cause le privilège d'être citadin de Jérusalem. De 1967 à 1994, le droit de résidence a été annulé pour des centaines d'individus qui avaient habité plus de 7 ans consécutifs à l'étranger, par exemple. Or, quand on sait que beaucoup de Palestiniens ont dû s'exiler, c'est facile de leur supprimer leur droit de résidence à Jérusalem. Ceux qui, en accord avec la loi, avaient renouvelé tous les 3 ans leur permis de sortie ou tous les ans, s'ils étaient partis par avion et étaient retournés avant l'expiration de leur visa de rentrée, cela ne rencontrait pas de difficultés. Dès 1994, les travaillistes ont à leur tour assisté à un contrôle plus strict. Il faut indiquer que depuis, la loi n'a pas explicitement défini la Cisjordanie et la bande de Gaza comme hors d'Israël. Ces territoires autonomes ou non sont considérés pour les besoins de la cause comme l'étranger. Alors en conséquence, quelqu'un qui y réside, même s'il a gardé une adresse à Jérusalem, s'il s'acquitte de ses impôts municipaux dans la ville de Jérusalem, eh bien malgré tout cela, il est menacé de l'interdiction de s'établir encore à Jérusalem. Or, dans le secteur arabe de la ville, le gouvernement n'accorde qu'en de rares occasions des permis de construire. Et les maisons bâties sans autorisation sont démolies. Selon le Centre palestinien des droits de l'homme, dans les 5 dernières années, 150 permis annuels ont été consentis à des Palestiniens pour rénover des maisons ou pour s'agrandir. Et en comparaison, les Juifs de l'ouest de la cité ont eu entre 1500 et 3000 permis pour édifier du neuf. Walid Salem, du Centre palestinien des droits de l'homme, précise que celui qui a la chance d'avoir un permis doit s'engager par écrit à ne pas louer à d'autres qu'à ses enfants. Ainsi que le souligne Yael Stein de l'Organisation des droits de l'homme israélien, B'Tselem, il est pratiquement impossible pour les Palestiniens de Jérusalem d'obtenir un permis de construire, d'où une énorme pénurie de logements. Ils sont donc obligés de s'en aller. Dorénavant, les Palestiniens détenteurs d'un passeport étranger doivent choisir entre celui-ci et la carte d'identité de Jérusalem. En décembre 1996, certains munis d'un passeport américain ont été soumis à cette alternative. Alors le consul général des États-Unis, Edward Abington, a protesté. Il a dit « Israël poursuit une politique de discrimination contre les Américains d'origine palestinienne. Nous avons enregistré 60 plaintes. Les États-Unis ont envoyé une doléance officielle au gouvernement israélien. » Mais nous n'avons reçu aucune explication, dit le consul général. Alors pour débarrasser progressivement Jérusalem des Palestiniens, est réapparue en 1994 la notion de centre de vie. Qu'est-ce que cela veut dire par là ? Eh bien, la journaliste Ingrid Jaradat-Glasner, qui a rencontré entre autres avec qui travaille Nathalie et dont nous allons parler et que nous rencontrerons la semaine prochaine, eh bien cette journaliste qui travaille au centre alternatif d'information qui réunit des journalistes israéliens et palestiniens, entre autres le compagnon de Léa Tzemel, juste pour faire le lien, pour montrer comment les choses s'organisent. Eh bien, ce centre alternatif d'information par la voix d'Ingrid, a dit « Un Palestinien qui vit à Jérusalem, pour rester, doit justifier à tout moment, document à l'appui, qu'il paye des impôts municipaux, c'est donc les mesures bureaucratiques, qu'il utilise de l'eau, que ses enfants y sont scolarisés, qu'il y travaille. » Alors maintenant, celui qui étudie ou travaille quelque temps ailleurs en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, eh bien, il risque le refus d'être à nouveau domicilié à Jérusalem. Les organisations des droits de l'homme ont relevé des exemples de Palestiniens partis étudier 2 ans à peine. Eh bien, vous vous rendez compte que l'an dernier, les employés du ministère de l'Intérieur ont commencé à vérifier le nombre de jours passés dans la capitale si la personne a des enfants et un proche parent. Ainsi, selon des critères arbitraires, ils estiment qu'elle a déplacé son centre de vie ailleurs et de ce fait, elle est exclue de Jérusalem. Et pour parfaire cet édifice juridique, et avoir le statut de résident n'est pas une garantie pour les siens. La réunion familiale est en question. C'est un vrai casse-tête pour lequel il faut s'armer de patience pendant des années, souvent sans résultat. Quand l'épouse palestinienne n'est pas de la ville, le mari qui l'est doit prouver qu'il y vit avec sa famille. Or, la politique de logement laisse peu de choix de jeunes couples. Ils sont contraints d'être chez leurs parents ou d'aller en banlieue. Et bien sûr, ils n'ont pas de justificatif de domicile dans Jérusalem. Quand c'est l'épouse qui est de Jérusalem, elle doit démontrer qu'elle a son centre de vie dans la capitale pour faire venir son mari. Depuis plus de 2 ans, ce dernier n'a plus l'autorisation spéciale pour demeurer dans la capitale. Quelle que soit la situation, si pour une raison ou une autre, souvent pour éviter une séparation familiale, le foyer ne réside pas dans Jérusalem, alors celui qui avait le statut de résident en est privé. Ceci ne se produisait pas avant 1994. Quant aux enfants, même si les parents ont la carte d'identité de Jérusalem, pour ceux qui n'y sont pas nés, leur régularisation n'est pas certaine. Un nouveau décret stipule que les demandes de réunification seraient étudiées après que tous les documents seront réunis. Si le dossier est accepté, le requérant recevra pour 5 ans et demi un titre provisoire pour loger à Jérusalem. Et après, eh bien, les représentants du gouvernement Netanyahou n'hésitent pas à s'emparer des cartes d'identité. Des centaines de femmes venues remplir une demande de réunification familiale ont dû déposer leur propre carte au bureau. Des Palestiniens de la capitale se rendant en Jordanie par le pont Allenby, par exemple, ont dû faire de même. Alors, est-ce qu'ils récupéreront ce document si vital ? Azmi Abou Souhout, qui est directeur du Centre social et des droits civils de la Société des études arabes, s'insurge. Nous avons l'intention de soumettre ces cas à la Cour internationale de justice et à des institutions internationales des droits de l'homme. Nous devons nous battre contre ces actes de voleurs de grand chemin de ministère de l'Intérieur. Alors, moi, j'ai rencontré dans le bureau de chez Léa Tsemel une femme, Samira, qui vit exactement cette même situation, mais elle va nous l'expliquer elle-même. Samira Redjabi, c'est son nom, a 7 enfants, 5 garçons, 2 filles. Eh bien, elle vous expliquera comment aujourd'hui, elle n'arrive pas, alors qu'elle est née à Jérusalem, obtenir la réunification de sa famille à Jérusalem et le droit de vivre à Jérusalem pour toute sa famille. Alors tout de suite, dans le bureau de Léa Tsemel, la rencontre avec Samira. Samira, you are here to talk with Léa Tsemel, who is... Samira, vous êtes ici pour parler à Léa Tsemel, qui est avocate. Pourquoi avez-vous besoin de son aide?
I need the help of Leah, because I born here, and also all of my family.
J'ai besoin de l'aide de Léa parce que je suis née à Jérusalem, ainsi que ma famille et la famille de mon mari qui est aussi née ici. Il y a fait ses études. Mais avant la guerre de 1967, il est allé travailler au Koweït. Il ne savait pas, bien sûr, qu'il y allait avoir une guerre. Et après, il n'a plus pu revenir à Jérusalem. En 1975, nous nous sommes mariés. Il est venu ici pour ça. Ensuite, pendant 3 ans, moi, je suis restée là à Jérusalem et lui venait de temps en temps. Chaque fois, il devait demander un visa. Et puis ensuite, ils ont commencé à lui refuser son visa parfois. Alors, le 1er janvier 1978, je suis partie au Koweït avec mon mari. Chaque année, je suis revenue ici à Jérusalem. Et tous mes enfants sont nés ici.
And all of my sons, all of my children are born here.
Parce que vous, Samira, vous avez l'autorisation de résider à Jérusalem. Oui, moi j'ai une carte d'identité de Jérusalem. Mais après avoir mis au monde cinq enfants, deux de mes enfants sont nés au Koweït. Parce que l'un est né en septembre et l'autre en décembre, l'année d'après. Et à ces deux moments-là, les autres enfants étaient à l'école au Koweït, donc je ne pouvais pas venir à Jérusalem. C'est pourquoi j'ai dû accoucher à Koweït pour ces deux enfants-là. Mais tous les ans, ou tous les ans et demi, je suis revenue à Jérusalem. Pourquoi, Samira, vous êtes venue accoucher ici à Jérusalem? C'est parce que vous avez besoin de l'aide de votre famille? Oui, parce que nous sommes d'ici. Nous voulons que nos enfants soient d'ici. Nous voulons qu'ils reçoivent la carte de résident de Jérusalem. Et c'est la seule façon de l'avoir, s'ils sont nés ici à Jérusalem? Oui, avant, ils nous donnaient la carte d'identité si on était nés ici. Mais maintenant, ils nous disent que non, et que les enfants sont enregistrés sur les papiers d'identité de leur père. Alors, si le père a une carte de résident de Jérusalem, les enfants l'ont aussi. Mais si le père ne l'a pas, comme mon mari, les enfants ne la reçoivent pas. Et ma carte de résidente ne compte pour rien du tout. Et donc je suis venue voir Léa Tzemel pour qu'elle nous aide à obtenir une carte de résident pour mon mari. Car la dernière fois que mon mari a demandé un visa pour venir ici, on lui a refusé. Et nous, on lui a dit que lui, moi et tous nos enfants, nous devions quitter Jérusalem dans les 15 jours qui suivent.
And all of your children, and go out after 15 days. There is no place for us.
Je ne sais pas où nous irions. Il n'y a nulle part où on peut aller. Parce qu'en plus, vous ne pouvez pas rester ici ni retourner au Koweït suite à la guerre du Golfe. Non, on ne peut plus rester là-bas non plus. Après la guerre du Golfe, les Koweïtiens nous ont mis dehors. Ils nous ont dit qu'il fallait partir. On devait avoir quitté le pays avant le 15 juillet
1991.
Il n'y avait aucun endroit où nous pouvions habiter. Alors, malgré tout, malgré les interdictions, nous sommes revenus à Jérusalem, dans notre maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où veulent-ils que nous allions? Et vous pensez que Léa peut vous aider? Je pense que oui, mais on ne sait pas ce qui va arriver.
We did not know what happened.
Samira, you could go to.
Mais Samira, vous pourriez aller vivre dans les territoires palestiniens comme Jéricho, Hebron, Bethléem ou n'importe quel endroit devenu autonome?
No, because I born in Jerusalem.
Non, parce que je suis née à Jérusalem et je ne veux pas aller ailleurs, seulement pour des visites ou voyager. Mais nous voulons vivre à Jérusalem et pas devoir aller dans ces autres villes et y rester.
Only, but all the time we are from in Jerusalem, we not go in that place and stay in it.
It's important to stay where your family is and where.
Pour vous, c'est important de rester à l'endroit où vit votre famille où vous êtes né. Oui, toute ma famille est ici. À cause de ça, je veux être avec ma famille. Et aussi la famille de mon mari, mes parents, mes frères, mes sœurs, toute ma famille est à Jérusalem. Nous ne voulons pas partir. Nous ne voulons vivre ici.
My husband's family also in Jerusalem. For that, we not need to go out. We want here.
Samira, you are with your husband. He's coming with you.
Ici, Samira, vous êtes avec votre mari. Il est venu pour parler avec vous, Aléa.
He is living.
Oui, il est avec nous, mais... Ah non, il n'est pas venu au bureau avec moi. Il est à la maison, car il ne peut pas sortir. Il n'a pas de papier, pas de visa pour aller et venir. Il n'a pas le droit de travailler non plus. Alors, il reste la plupart du temps à la maison. Car il a peur des contrôles. Oui, nous voulons être dans la légalité. Nous ne voulons pas être hors la loi. Nous voulons pouvoir rester ici légalement. Et c'est pour ça que je suis venue voir Léa. Rien. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien de nouveau.
So what are you going to do?
Wait, qu'est-ce que vous allez faire? Attendre. Non, je veux attendre, je veux encore attendre, comme plein d'autres gens. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de gens dans la même situation que moi. Alors nous allons voir ce qui va nous arriver. Voilà, eh bien c'était Samira. Vous avez entendu le cas concret que Samira doit vivre tous les jours. Il n'y a pas beaucoup d'espoir pour l'instant que son cas s'améliore. Quand vous entendez ce que dit Léa Tsemel, quand vous lisez les nombreuses mesures administratives qu'on leur met pour les déporter, comme disait ces déportations silencieuses dont parlait Léa Tsemel, eh bien la Samira, son mari et ses enfants ne sont pas prêts de pouvoir vivre légalement, comme il dit, pas comme des hors-la-loi, à Jérusalem. Alors, la semaine prochaine, eh bien, ce sera un deuxième volet sur ce voyage. Ce sera la rencontre avec une jeune femme de l'université de Birzeit qui nous parle un petit peu de ce qu'elle fait comme dans son centre de droit et puis sa vie à elle comme jeune femme. Et puis, ce sera l'occasion d'évoquer d'autres femmes dans un village qui s'appelle Saïr, qui se trouve près d'Hébron et où a décidé de tourner un film, Nathalie qui est genevoise, mais qui a eu envie d'aller donner la parole et l'image, parce qu'elle va utiliser de ses deux moyens, elle pas seulement du son, pour parler de ces femmes qui aujourd'hui essayent de jouer un rôle dans ce nouvel État qui se construit petit à petit, nouvel État qui n'échappe pas tous les jours au travers de n'importe quel État, puisque, vous l'avez entendu, les droits de la personne sont fort peu respectés au niveau législatif, arrestation, torture, condamnation à mort sous les territoires palestiniens. On sait, j'ai aussi rencontré des enseignants en grève parce que le ministère de l'Éducation avait licencié les 19 meneurs syndicaux qui se battaient avec les enseignants pour obtenir un meilleur salaire. Ils sont payés $300 par mois alors que la police palestinienne, elle, est payée $2000 par mois. Eh bien, on a quand même licencié les meneurs syndicaux. Des fois, on a certains doutes quand même sur comment les choses se construisent. On dirait que toutes les révolutions devraient se faire en même temps, mais c'est évidemment pas très simple de mener toutes ces luttes de front. Alors, la semaine prochaine, donc des nouvelles de femmes, plus en particulier sur leur vie quotidienne. Celle de Samira et sa famille, c'est bien sûr très au quotidien. C'était aussi une page, c'est dans la grande ville. On partira à la campagne et puis tout à fait peut-être dans un autre monde, à l'université. Mais je crois que l'université de Birzeit n'est pas si loin que ça, des gens de la campagne d'une certaine façon. Alors branchez vos oreilles maintenant sur la pleine lune. Elle est pleine et magnifique. Il faudra attendre quelques instants pour qu'elle brille, mais en tout cas, elle va résonner dans vos oreilles. À la semaine prochaine. Thank you.
Alors, on a l'or.